Vous écoutez le Libre Journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 2 juillet 2023 de 18h à 21h et réalisé par Aline. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir à nouveau, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission, toujours en direct. Et je rappelle que Marie-Hélène est avec nous au standard et qu'elle sera très heureuse de prendre vos messages, de prendre vos questions que nous proposons, bien sûr, à nos invités. Ce soir, ils sont nombreux, ils sont trois dans le studio. Judas, l'apôtre félon, on lui donne dans l'iconographie des vêtements jaunes et on lui associe aussi des cheveux roux. Ce sont les attributs négatifs qui vont perdurer pendant plusieurs siècles. Dans la même idée, eh bien, les traîtres à une cause, on appelle ça les jaunes. Donc, le jaune, c'est la couleur des traîtres, c'est aussi la couleur des cocus d'ailleurs, paraît-il. Et en général, les syndicats ouvriers, lorsqu'ils n'apprécient pas la position d'un certain nombre d'autres syndicats qu'ils jugent trop proches des patrons ou trop collaborateurs avec les patrons, eh bien, ils appellent ces syndicats les jaunes. Et vous voyez que donc Judas donne le ton et donne la couleur de la traîtrise. En effet, Judas, pour nous, c'est un peu le traître originel. Hein, c'est le traître étalon, si l'on veut le dire. Et c'est pour cela que souvent on qualifie les traîtres de Judas. Et quand on dit ça, on pense par exemple au maréchal Marmont, le duc de Raguse. Alors ça, c'est pendant le Premier Empire. À la fin du Premier Empire, Marmont, qui s'est révélé un très grand chef de guerre, eh bien, il est aussi, en la matière de traîtrise, une référence, on le qualifie, de Judas de l'armée française, au point, lui aussi, de devenir une référence, puisque une trahison, ça s'appelle aussi une ragusade. Néanmoins, quand on rentre un peu dans le détail, dans le contexte historique, dans les circonstances, à cet égard, on est un peu éclairé par la formule de Talleyrand, qui fut un expert en matière de trahison, et lui de trahison rémunérée, ce qui n'est pas le cas, en effet, de tous les traîtres. Hein. Talleyrand a gagné beaucoup plus d'argent par ses trahisons que Judas, avec ses quelques dizaines de deniers. Eh bien, Talleyrand a cette formule sur la trahison. Il nous dit que c'est surtout une affaire de date. Donc les choses ne sont pas si simples qu'elles paraissent dans un premier temps. Les spécialistes, ainsi, nous expliquent que l'attitude et le choix de Judas s'explique par la déception qu'il a eue du comportement de Jésus. Déçu parce qu'il était, il aurait été un nationaliste juif. Et il aurait voulu que le Messie chasse les Romains. Et donc il aurait livré Jésus par déception, mais sans souhaiter qu'on le condamne à mort, d'où son suicide. Et si on revient à Marmont, aussi un peu l'autre, aussi un peu un traître étalon, en tout cas dans la chose militaire. Marmont a-t-il réellement trahi? On peut se poser la question. Il en a eu certes la tentation, comme beaucoup de ses confrères maréchaux en 1814. Il en a eu la tentation, mais il se reprit. Il se reprit au contact de ses camarades maréchaux et il donna des consignes assez claires à ses généraux de ne pas abandonner les positions, consignes, qui n'eussent pas respectées. Donc là aussi, les choses ne sont pas si simples. Et que dire aussi du maréchal Ney? Le maréchal Ney, ce lion de la guerre, en quelque sorte, que nous avons évoquées avec nos invités ce soir dans une émission précédente. Ces quelques exemples illustrent la complexité de cette notion de trahison et du geste lui-même, pas toujours facile à comprendre. Un livre original vient de paraître sur ce thème, et justement pour nous aider à la compréhension de cette notion de traîtrise. Le titre de ce livre, c'est « Traître, une nouvelle histoire de l'infamie », et c'est édité aux éditions Passé Composé. Ce livre présente une quinzaine de portraits de grands traîtres, de traîtres historiques en quelque sorte, du XVe siècle au XXe siècle. Nous proposons ainsi une approche de l'infamie, de ses enjeux et de sa complexité. Alors c'est un ouvrage collectif qui est publié sous la direction de Franck Favier que nous avions reçu pour le Maréchal Ney. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir deux autres auteurs qui ont contribué à ce livre sur la traîtrise, qui sont dans le studio ce soir. Alors nous constaterons, vous constaterez dans cette émission, et encore plus si vous lisez ce livre, ce que je vous recommande, chers auditeurs, qu'il y a vraiment une très grande variété de traîtres ou de supposés traîtres qui sont présentés parmi cette quinzaine de portraits. Est-ce qu'on peut dire, malgré le titre du livre, « Une nouvelle histoire de l'infamie », qui ne sont pas tous infâmes, loin de là. Et il y a certains, vraiment, la question se pose. Hein. Traître pour certains et héros pour d'autres, hein. C'est un peu ça. Donc c'est assez, la réponse à donner est assez complexe, et ce livre, bien sûr, nous aidera à prendre conscience de cela. Alors ce soir, nous n'avons qu'une heure trente. Nous aborderons cinq exemples. Je crains que nous puissions pas aller au-delà de trois, parce que chaque histoire de traître, vous le verrez, est déjà très riche. Il y a les jeux de trône suédois au XVIe siècle, là on monte dans l'histoire. Il y a aussi Trenkporten, qui était un héros patriote ou un traître finlandais au XVIIIe siècle. Et il y a les émigrés français pendant la Révolution. Sont-ils fidèles à la cause du roi, mais en étant fidèles à la cause du roi, sont-ils devenus automatiquement des traîtres? C'est la question que nous allons nous poser. Il y a bien sûr, on l'a évoqué avec Marmont, Ney, et puis le livre évoque la triple trahison du maréchal Bessières. Eh bien, il y a les quatre consciences de 1815. Et que fallait-il y faire en 1815, lorsque Napoléon revient de l'île d'Elbe. Et puis il y a un chapitre particulièrement original qui nous éclaire, un peu comme sur la Suède d'ailleurs, sur une histoire qui aborde une histoire qui est méconnue, en tout cas méconnue de notre part, puisqu'il s'agit de l'histoire de Wang Jingwei, qui lui est un nationaliste chinois, farouchement anti-communisme. Alors le chapitre est intitulé « Le martyr raté », nous verrons pourquoi. Ben, pareil, Wang Jingwei, c'est le traître absolu en Chine, mais quand on regarde son histoire, finalement, est-ce un traître ou quelqu'un qui s'est un peu égaré, en quelque sorte, dans une direction où l'histoire lui a donné tort, puisqu'il a perdu. Hein, c'est, voilà. Donc, pour évoquer ces différentes traîtrises, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir trois invités ce soir en direct pour donc nous parler de cette traite. Ils ont contribué, nos trois invités, à ce livre. Alors tout d'abord, Franck Favier. Franck Favier, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci d'être là. Vous êtes historien, spécialiste de la Suède. C'est pour ça que vous avez écrit ces deux chapitres du livre, hein, consacrés donc aux traîtres nordiques, en quelque sorte. Vous êtes professeur en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly. Vous n'êtes pas qu'un spécialiste de la Suède, mais aussi de l'Empire, puisque nous avions reçu pour Michel Ney, que vous venez de publier chez Perrin, tout récemment. Vous avez publié aussi, toujours chez Perrin, Marmont, le maréchal du malheur, là encore. Peut-être vous pourrez nous en dire un mot ou deux. Hein. Marmont a-t-il réellement trahi? Et puis vous avez eu le prix Premier Empire de la Fondation Napoléon pour ses livres, je crois.
Pour Berthier.
Pour Berthier.
Berthier, l'ombre de Napoléon.
Ah, bon, pour Berthier, qui lui n'a pas trahi. La question s'est pas posée en 1815, puisqu'il était mort.
La question s'est posée en 1814, en fait. fait, au moment de la première abdication.
Oui, de la première abdication, oui.
Mais non, il n'a pas trahi.
Il n'a pas trahi. Donc, la question ne s'est pas posée.
Il a assuré ses intérêts, on va dire. Voilà.
Oui, il n'est pas rentré de Bavière.
Voilà. Après, il n'est pas rentré de Bavière. Bah, il a été prisonnier et puis il s'est suicidé.
Il était prisonnier.
Il s'est suicidé ou il a été, ou il a fait une attaque d'apoplexie. On ne sait pas très bien. Ça reste une énigme encore, Berthier. Encore aujourd'hui, ça va.
Il est tombé d'un balcon.
Il est tombé d'un balcon du château, un château Bavière. Et il y a trois hypothèses. Soit il s'est suicidé, soit il a fait une attaque d'apoplexie, soit il a été poussé par des militants, on va dire, nationalistes allemands. Mais bon, la thèse la plus sur laquelle on revient aujourd'hui, enfin sur laquelle qu'on retient aujourd'hui, pardon, c'est la thèse de l'attaque d'apoplexie. Pour l'instant.
Et vous partagez quelle
celle-là. Comme Jean Tullard, d'ailleurs, on retient cette
version. Qui me paraît la plus vraisemblable.
Pourquoi la thèse de la comment dire qu'il était poussé par des nationalistes allemands? Parce que son fils, qui avait 3 ans, a vu des hommes en noir. Apparemment va apparaître dans ce couloir du château et peut-être il l'aurait poussé. Donc c'est la thèse qui a été retenue par la famille, mais bon, un enfant de 3 ans... Et la configuration du château, j'y suis allé, le couloir est très étroit, c'est quasiment impossible.
Il faut se méfier des hommes en noir.
Voilà, c'est ça.
Et puis notre deuxième invité, j'aurais dû commencer par vous, madame, je vous prie de m'excuser, ce n'est pas galant du tout ce que j'ai fait, j'espère que vous me le pardonnerez. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc Florence de Baudus, c'est un grand plaisir à vous recevoir. Je pense que vous êtes déjà venue à Radio Corsosie, vu vos thèmes de spécialité, parce que je pense que vous êtes une grande spécialiste de Volkov. Et donc vous êtes certainement venu à la radio pour évoquer donc ce grand écrivain, mais vous êtes aussi une spécialiste de l'Empire, puisque vous avez aussi écrit récemment, en 2021, aux éditions Perrin, à la fois Pauline Bonaparte, princesse Borgèse, Napoléon face aux souveraines de son sang aussi chez Perrin, et puis... Donc vous collaborez à cette édition collective sur les traîtres, hein. Vous avez écrit le chapitre sur les émigrés, et nous, bien sûr nous avons évoqué ce chapitre. Et puis précisons que vous allez publier aux éditions Passées Composées un peu le pendant aux traîtres, n'est-ce pas, un ouvrage qui s'intitulera « Fidélité » et qui mettra en scène quelques personnages du Premier Empire.
Absolument. Quand on a écrit sur les traîtres, on a envie d'écrire sur la fidélité.
Moi, j'espère que vous viendrez parler des fidélités du Premier Empire. Fidélité à quoi? À l'empereur ou
fidélité, qu'est-ce que la fidélité? À quoi? À qui est-on fidèle? Ça,
c'est encore compliqué. C'est comme la traîtrise. Si la traîtrise est compliquée, la fidélité l'est forcément aussi. Hein.
Comme dit Talleyrand, c'est aussi une question de date.
Pas toujours facile de savoir où se trouve son devoir. Effectivement, dans les situations compliquées, c'est un petit peu ce qu'on peut retenir de ce chapitre sur... les traîtres. Et puis notre troisième invité, Sébastien Bertrand, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, là aussi en direct. Vous êtes agrégé et docteur en histoire contemporaine et vous êtes aussi enseignant en classe préparatoire à Josson de Sailly et à Chaptal. Vous avez écrit dans ce livre collectif le chapitre sur le traître absolu chinois.
Wang Jingwei.
Voilà. Et bien, nous sommes heureux de vous entendre sur ce chapitre. Alors, vous avez collaboré à un certain nombre d'ouvrages collectifs, et notamment un ouvrage quand même de référence qui a été publié au PUF, l'histoire mondiale du XXe siècle, avec des auteurs aussi fameux.
Ah oui, il y a une cinquantaine d'auteurs.
Dont vous.
Oui, voilà. Mais je ne fais pas partie des plus connus et des plus prestigieux, loin s'en faut.
Et vous avez collaboré aussi sur l'histoire de l'Asie aussi ?
Alors moi, j'ai écrit les pages correspondant aux décennies 1980 et 1990. Voilà. Qui correspondent à mon enfance et mon adolescence. Mais bon, c'est pas un témoignage,
bien sûr. Hein.
C'est pas un témoignage. Hein, et j'ai pris un très grand plaisir à travailler sur ce chapitre-là. Voilà. Donc c'est un chapitre chronologique assez traditionnel. Les pages consacrées à l'Asie ont été rédigées par d'autres spécialistes.
Mais vous êtes un spécialiste de l'histoire du XXe siècle, de l'Europe et de l'Asie.
On peut dire ça.
Eh bien, j'espère que je n'ai rien oublié dans cette présentation. Et je vais vous poser, avant de rentrer dans le détail des chapitres sur lesquels vous êtes intervenu, je vous propose qu'on aille dans l'ordre chronologique, qu'on commence par Sportgarten, le Finlandais, nous passions aux émigrés, et nous terminions par notre ami, cette personnalité. Wang, hein, c'est ça, c'est Wang.
Il a des côtés très attachants, vous verrez.
Oui, donc et puis si nous avons le temps, Franck Favier, bah, nous poursuivrons par...
1814-1815, c'est ça. Je sais que vous aimez bien cette période.
C'est vrai que c'est une phase qui est très riche. C'est vrai, une phase qui est...
Ah, il y a eu un dictionnaire célèbre qui s'appelle le dictionnaire des Girouettes, évidemment, qui a été quelque chose d'important, là.
Alors, je vous pose la première question. Pourquoi les traîtres fascinent et pourquoi avez-vous choisi de publier sur ce thème ?
Ah, c'est une vieille histoire, en définitive. Parce que la trahison ou la traîtrise, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Bah, tous les maréchaux sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit Bernadotte, Marmont, Berthier un petit peu, et puis Ney, sont souvent accusés à juste titre, ou à mauvais titre d'ailleurs, de trahison. Donc, et ça remonte à mes études, en définitive, parce que mon maître, qui est Jean Tullard, s'intéressait beaucoup à ça. Également, bah, il a travaillé sur Talleyrand, sur Fouché, entre autres. Hein. Et... c'est quelque chose qui est revenu, et en discutant avec Vincent Agueleux, donc, qui est un ami qui est le co-directeur de l'ouvrage, on s'est dit qu'il était intéressant d'avoir un ouvrage sur la trahison, non pas seulement sur la perte de l'Empire, parce que bon, c'était possible, hein, mais ça nous a intéressé surtout d'étendre l'idée et d'étendre géographiquement une étude par rapport à cela. Notamment sur l'Europe, donc l'Europe du Nord, évidemment. On aurait pu aller sur d'autres pays d'Europe, et puis on a voulu étendre aussi à l'Amérique latine, parce qu'il n'y a souvent pas grand-chose de fait dessus, sur l'Espagne, et également, donc, est venue la Chine. Bon, il y a d'autres cas qui auraient été possibles, sur l'Inde, par exemple, mais il a fallu faire des choix, et voilà, l'idée était là au départ.
Et comment avez-vous fait vos choix, d'ailleurs ? Parce que dans l'introduction du livre, vous dites l'Ancien Testament, dès l'Ancien Testament, il y a une grande richesse. Il y a beaucoup d'exemples intéressants en matière de trahison. Par exemple, ça aurait pu être celle de Dalila livrant Samson aux Philistins, mm-hmm. Ça peut être même le roi Saül, etc. etc. Comment avez-vous fait vos choix ?
D'abord, la première chose, c'était qu'on voulait commencer, on voulait pas faire d'Antiquité ni de Moyen-Âge, parce que c'était souvent lié au serment de fidélité lié à la féodalité. Bon, on aurait pu faire différentes choses là-dessus, et on a voulu commencer plutôt à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire le moment où il y a évidemment encore des relents de serments de fidélité, notamment avec le roi et les nobles. On pense au connétable de Bourbon, d'où il y a un chapitre évidemment là-dessus, avec François Ier, et puis aller montrer comment cette situation de trahison évoluait, donc du crime de lèse-majesté vers un crime de lèse-société. Et c'était cette évolution qui nous intéressait, en allant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a un chapitre sur l'Académie française en particulier, et montrer cette évolution. Donc ensuite, les traîtres, on a choisi par rapport à des personnages. Déjà, on ne voulait aucun personnage très connu. Talleyrand, Fouché ont été mis de côté, pour une fois, parce que l'histoire de Talleyrand et de Fouché, après Manuel de Varesquiel, c'est évidemment très compliqué d'en reparler. Et on a voulu plutôt aller vers des personnages moins connus, donc connétable de Bourbon est connu, ça on est bien d'accord, mais par exemple Bénédicte Arnold pour les États-Unis, qui est connu aux États-Unis mais pas très bien en France, Stringporton évidemment en Suède, Kisling en Norvège, bon Kisling étant un verbe maintenant anglicisé, puisque ça veut dire ce que vous pouvez imaginer sur la trahison en définitive pour la Norvège. Et puis ce qui nous a intéressé, c'était les moments, la période 1814-1815, et de pour sortir également vers des groupes, les émigrés, les généraux, les académiciens. Ça peut être également tout ce qui est donc tous ces hommes qui ont vont commettre des crimes de lèse société éventuellement, ou de lèse nation pour les émigrés. La discussion peut s'engager là-dessus. Donc c'est ça, c'était de montrer que la trahison pouvait être une affaire individuelle, mais pouvait être une affaire de groupe également. Voilà comment on a choisi. Donc après, les noms étaient choisis. On ne manquait pas de noms sur la trahison, ça c'est clair. Il a fallu faire des choix, et après il a fallu choisir des auteurs, et puis ça s'est fait assez facilement en définitive.
Alors je suis un peu surpris par le sous-titre « Nouvelle histoire de l'infamie », parce que dans cette introduction, vous écrivez qu'il arrive que les traîtres d'hier, ou jugés comme tels, soient considérés à terme comme des héros.
Oui.
Dans ce cas-là, il n'y a pas d'infamie. Pourquoi parlez-vous d'infamie ? Parce qu'on se rend compte, lorsqu'on lit les différents portraits que vous faites, on n'a pas toujours affaire à des gens infâmes. Les raisons de la trahison, les causes des trahisons sont vraiment multiples. Et souvent, les choix qui sont faits sont faits en pleine bonne conscience. Les acteurs ont l'impression de s'engager dans une voie juste et pas forcément par intérêt personnel. Alors parfois, ils savent très bien faire conjuguer leur intérêt personnel avec la cause qu'ils servent, mais pas toujours.
Alors, il y a une référence à Borghèse, évidemment, pour l'histoire de l'infamie. Mais l'idée aussi, c'est de montrer qu'il reste, même si cette trahison, on le voit historiquement, n'est pas tout à fait infamante en définitive, puisqu'ils trahissent pour différentes raisons. On y reviendra, notamment, je pense, à Strindbjörnsson qui trahit, lui, parce qu'il veut l'indépendance de la Finlande. Du moins, c'est ce qu'il dit en avant. C'est pas si simple que ça. Il y a malgré tout l'idée que Strindbjörnsson, comme Arnold, comme Kiesling, comme Marmont, que vous avez évoqué ici, restent infâmes et restent les traîtres majuscules. Je crois que c'est l'archi-traître, me semble-t-il, pour Wen Jingwei, qui est évoqué. Donc,
c'est l'archi-traître.
C'est là l'infamie. Oui. En fait, il y a une nouvelle histoire de l'infamie. L'infamie, elle reste marquée. On pourrait tout dire sur Marmont, on pourrait toujours essayer de le réhabiliter. Marmont, c'est M le maudit. C'est Marmont le maudit. Donc c'est toujours comme ça.
Pour quelle raison ?
Parce qu'il a trahi Napoléon, il a trahi l'Empire, il a trahi les idéaux de sa jeunesse, bon, etc.
Donc, mais si on revient au cas de Marmont, il ne paraît pas que ce soit le maréchal qui ait le plus trahi, finalement.
Non, mais il trahit à un moment clé. Il trahit à un moment clé, et c'est évidemment donc au moment d'avril 114, quand son régiment, évidemment, va faire défection. Il trahit, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il ne trahissait pas tout à fait, puisqu'il a essayé de récupérer ses troupes et d'éviter ça. Mais enfin, il a trahi déjà avant, puisqu'il a pris contact avec Schwarzenberg, et il a pris contact avec les Autrichiens pour mettre en place un système de reddition, une défection. Et il revient en arrière, parce qu'il s'aperçoit qu'en définitive, Napoléon est en train d'abdiquer, et donc résultat, il essaye de colmater un peu tout ça. Je pense qu'il trahit l'empereur, il trahit pas forcément la France, que la situation était très complexe ici, mais il trahit au minimal l'amitié. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans le livre. Parce que Marmont est l'un des plus vieux amis de Napoléon. Et Napoléon comptait sur Marmont. Il pensait d'ailleurs encore, on a des textes de lui, donc en avril 1814, où il dit, bon, Marmont, de toute façon, il ne me trahira pas, il sera toujours avec moi. Ben, c'est celui-là qui le trahit. C'est celui qui le trahit.
Ce que vous nous expliquez, Franck Favier, c'est que lorsque... donc, il tient tout le front sud, sur l'Essonne, entre Fontainebleau et Paris. Et là, il a préparé son plan pour que ses troupes partent sur Versailles. Et puis, il a ses camarades maréchaux qui vont rencontrer l'empereur de Russie, qui passent le prendre.
Tout à fait.
Et ce que vous expliquez, c'est par opportunisme qu'il rejoint les maréchaux pour aller plus que par esprit de service.
Il comprend que sa défection qu'il a faite avec Schwarzenberg ne servira à rien et qu'il essaye de revenir en arrière.
C'est pour ça.
Il demande à ses généraux, notamment le général Souan, entre autres, d'arrêter, de calmer le jeu. Et puis, les autres, Souan a peur parce qu'il y a un ordre qui arrive de Fontainebleau qui demande à Souan de venir à Fontainebleau. Donc Souan se dit, on est pris. Et en définitive, c'était uniquement pour avoir quelques règlements et quelques informations à avoir. Et donc souvent, entraîne l'armée et Marmont s'aperçoit à Paris que tout est perdu.
Oui, donc pour vous, le terme de trahison pour Marmont est justifié. Sébastien Berthaud, vous vouliez réagir sur...
Non, je voulais juste ajouter pour compléter ce que disait Franck. Et vous l'avez dit en évoquant Talleyrand, que la trahison était une question de date. Il n'y a rien de plus vrai. C'est-à-dire que c'est là qu'intervient l'histoire et l'événement et l'importance de l'événementiel. C'est-à-dire que si les traîtres dont nous parlons étaient morts dans un accident de cheval pour Marmont ou dans un accident d'avion pour Wang ou quelques mois avant le moment d'un choix fatidique, ils ne seraient pas du tout entrés de la même manière dans l'histoire. Et dans le cas de Wang Jingwei, il y a de très nombreux moments où il a frôlé la mort et où s'il était mort, son image dans l'histoire aurait été totalement différente. Donc le poids de l'événement, le poids du moment, les circonstances où d'ailleurs ceux qui trahissent n'ont pas du tout cette impression-là, c'est pas du tout le sentiment qu'ils ont au fond d'eux, ça va de soi, joue un rôle considérable, énorme, colossal.
Et puis tous les traîtres qu'on a traités généralement sont des perdants. Également. Oui. Ils sont tous des perdants. Ceux qu'on a traités, évidemment, Talleyrand, Fouché. Enfin, Fouché est perdant, très rapidement quand même. Talleyrand, moins. Mais ils sont souvent des perdants. On avait réfléchi à un moment donné, est-ce qu'on avait parlé, par exemple, du général de Gaulle, qui en 1940 était considéré comme un traître. On aurait très bien pu l'évoquer. Bon, et on n'a pas voulu rentrer dans le débat, mais ça pouvait être un élément ici. Mais de Gaulle s'en sort, puisque lui, il gagne à la fin. Alors que Strindbjörnsson, Wen Jingwei, Benedict Arnold, l'emportent pas. Les immigrés, ils sont obligés de faire...
De Gaulle est parti absolument comme les immigrés. Voilà, il a quitté la France comme les immigrés ont quitté la France. La grosse différence, c'est que les émigrés ont perdu et que De Gaulle a gagné.
Alors justement, dans tous ces exemples de traîtres dans votre livre, dont vous écrivez, d'ailleurs, les traîtres fascinent autant par leur infamie que par leur courage d'aller contre une raison impérieuse plus puissante. Ça rend cette notion plus complexe qu'on l'imagine. Et puis vous venez de souligner, là, ce qui est très important, c'est la défaite ou la victoire.
Tout à fait.
La défaite vous colle dans la catégorie traître définitivement quand la victoire peut vous en sortir et justement faire de vous un héros. Dans tous ces portraits que vous nous proposez, quels sont, et que vous allez évoquer ce soir, nous allons juste après cette question rentrer dans le traître suédo-finlandais Springhorten, hein, qui est en plus Springhorten, pardon, c'est un chapitre qui a le mérite de nous éclairer sur une histoire méconnue, hein, celle des pays scandinaves au XVIIIe siècle, de l'indépendance de la Finlande, etc. Quels sont pour vous les traîtres qui sont vraiment infâmes, les vrais traîtres
ah, c'est compliqué.
Et puis ceux qui ont réagi par idéal, avec une forme de courage, de désintéressement, et qui sont mis dans la case traître, où ils devraient plutôt être mis dans la case perdant malheureux, quoi. Là, ce soir, vous, dans la conversation, cette introduction, déjà, je trouve que c'est intéressant, vous avez confirmé que Marmont a vraiment trahi, et que là, il n'y a pas de question à se poser, et qu'il est dans la bonne case, en quelque sorte. Quels sont ceux que vous mettriez, justement, un peu dans les perdants malheureux, et puis ceux que vous mettriez dans les vrais traîtres?
Dans le livre, peut-être le traître le plus absolu, ça serait le général Sarrazin. Le général Sarrazin qui est trigame, donc avec un chapitre qui a été écrit par... Alors, trigame, il n'est pas traître que pour la trigamie, mais enfin, ça rajoute des éléments. Ça rajoute un élément aussi de trahison par rapport à l'adultère, qui est un élément essentiel, notamment dans l'Ancien Testament, hein, que l'adultère, c'est la trahison absolue. C'est un général français qui est passé du côté anglais.
À quelle époque ?
Déjà une trahison terrible, hein, 1810. C'est un Français qui passe du côté des Anglais. Donc il trahit, c'est un ancien aide de camp du maréchal Bernadotte. Il a fait pas mal de carrière avec lui, pas mal de temps avec lui. Et il va trahir, il va passer donc du côté de l'autre côté de la Manche pour passer des secrets d'État, des secrets d'armée aux Anglais qui vont globalement le mettre de côté, pas vraiment écouter ce qu'il dit, mais bon. Et il va dans sa vie essayer de justifier constamment tout le temps de cette trahison. Alors là, c'est un traître absolu, lui, vraiment un traître absolu qui n'arrivera pas à se faire reconnaître, qui mourra dans la pauvreté à Bruxelles, je me rappelle bien, en 1848. Et c'est, à mon avis, quelqu'un qui est vraiment détestable. Détestable, il est marié qu'une Anglaise, il est marié qu'une deux Françaises, bon, il joue sur tous les tableaux, donc c'est un personnage, vraiment le personnage le plus détestable du livre, à mon avis. Kiesling est pas mal non plus. Parce que lui, c'est un paranoïaque complet, qui est mégalomane, qui va essayer de s'emparer du pouvoir, qui s'empare du pouvoir en Norvège, pensant pouvoir être soutenu par les nazis. Voilà un autre traître, mais lui, il est fou. Vraiment, il est fou, Kiesling. Ça a été, plein de chercheurs norvégiens se sont penchés là-dessus. Et puis, on peut pas dire que Sarrazin soit fou, mais vraiment, c'est un odieux personnage.
C'est
un odieux personnage. Les autres sont pas des odieux personnages, ce sont des gens qui ont fait des choix. Des mauvais choix, à un moment donné de leur vie, et qui vont le payer. Oui. Alors, votre question, c'était de savoir les plus
traîtres. Je vais poser la question à Florence Debluy et à Sébastien Bertrand. Quels sont pour vous les vrais traîtres et des malchanceux?
C'est vrai, ce que dit Franck, il a souligné quels étaient les vrais. Mais quand Franck et Vincent m'ont demandé de parler des émigrés dans le chapitre, dans ce livre sur les traîtres, j'ai sauté au plafond. Les émigrés, des traîtres, quelle horreur.
Ce ne sont pas des traîtres. On va en parler avec vous, bien sûr.
On en parlera tout à l'heure.
On va en parler avec vous. Vous apportez une réponse. Oui, et vous, le traître...
Mais voyez, regardez, le duc d'Enghien est considéré comme un traître par beaucoup. Il a été d'ailleurs fusillé comme traître parce qu'il était appointé par les Anglais et qu'il faisait la guerre. Mais lui faisait la guerre contre la République, jamais contre la France.
On reproche toujours à Napoléon.
Tout est une question de point de vue.
Ça a été
c'est vraiment une tâche.
Une faute majeure. Ouais.
C'est une tâche sur son histoire, quand même.
C'est une borne.
Et Sébastien Bertrand, alors vous, votre être absolu et vos glorieux, enfin vos tristes perdants.
Je rejoins ce qu'a dit Franck, bien sûr. Pour Sarrazin, il n'y a pas tellement de. Enfin, c'est difficile, vraiment difficile de se faire son avocat. Il y a une part. On dit ceci, je pense, et mes collègues l'ont bien fait, la personnalité du traître et son action. Et quand on explore sa personnalité, et c'est ce que nous avons fait, on trouve parfois des personnages qui, d'une certaine manière, sont relativement attachants, et puis qui n'ont pas forcément beaucoup de sang sur les mains, qui ne sont pas forcément des massacreurs. Et dans le cas de Wang Jingwei, c'est quelqu'un qui fascine, et qui fascine encore les spécialistes de l'histoire de la Chine, alors dont je ne suis pas vraiment, hein, moi je travaille plus généralement sur le XXe siècle et sur l'Asie. Hein. Mais voilà, j'ai des collègues, Xavier Paulès, qui a écrit une histoire de la République de Chine, avec qui j'ai beaucoup parlé de Wang Jingwei, ou David Serfas, qui est l'auteur d'une thèse de doctorat aussi sur le gouvernement collaborateur de Wang. Et on découvre quand même un personnage très cultivé, très ouvert sur le monde, qui agit par idéal et dont la pureté idéologique va finalement amener la perte. J'en reparlerai tout à l'heure, mais je crois que c'est quelque chose aussi qui peut permettre de distinguer le traître absolu, celui pour qui on peut difficilement avoir de l'empathie, du traître qui est entré comme tel dans l'histoire ou qui passe pour tel dans l'histoire, mais qui finalement peut avoir, je ne dirais pas des circonstances atténuantes, parce que l'histoire n'est pas un tribunal, il faut bien insister là-dessus, mais dont on peut analyser le parcours et l'expliquer d'une manière, j'allais dire, tout à fait cohérente, sans passer par des traits de caractère, de personnalité. Voilà.
Et puis il y a le dernier, pour lequel vous ne l'évoquez pas dans ce livre, mais on pourrait l'évoquer bien sûr pour la partie du 114-115, c'est Bernadotte. Bernadotte, vous l'évoquez quand même dans l'introduction. On peut là aussi se poser la question. Alors lui, dans le camp des vainqueurs, clairement, hein, sa famille, ses descendants sont encore sur le trône de Suède. Donc il fait partie clairement du camp des vainqueurs. Néanmoins, l'opinion publique française, en 1815, vous l'écrivez, considérait quasi unanimement, l'aborait, le détestait, pour ce qu'il a fait, et avoir pris les armes à la tête de la Suède. Alors, certains disent, oui, mais il était devenu suédois, en quelque sorte, et il se consacrait aux intérês suédois. Qu'en pensez-vous? Doit-on le ranger dans le camp des vrais traîtres? Ou pas?
Moi, pas du tout. Bernadotte a toujours été contre Bonaparte. Il n'a pas voulu participer à Brumaire. Il a toujours été contre lui. Et finalement, après, bon, ouais, il a été appelé à régner en Suède. Mais ce n'est pas un traître. C'est quelqu'un qui était contre ce régime-là. Donc, pour moi, ça n'est.
Il s'en est accommodé, on va dire,
oui,
du régime.
Oui, mais pas très longtemps. Pas très longtemps. Il a.
C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des rivalités entre Bernadotte et Napoléon.
Et puis en plus, il y avait des rivalités de famille. Donc
avec Désiré au milieu, donc, et Joseph Bonaparte, il a été... Non, en fait, il a considéré... Bernadotte, c'est un... Donc, il est originaire de Pau, un Béarnais. Et en Béarn, on est très légitimiste par rapport aux lois. Donc, il a été élu par la diète suédoise donc, en août 1810, 23 août 1810. Et il considère qu'il a la légitimité de l'élection. Résultat, il devient prince royal de Suède. Napoléon a essayé de lui faire signer un certain nombre de papiers avant qu'il parte en Suède, pour notamment l'engageant de ne pas prendre les armes contre la France. Il a refusé. Il a refusé en disant que si c'était ça, bah, il refusait le trône de Suède également, du moins le prince royal. Napoléon a dit « bon, bah, allez-y bon, ». L'erreur, d'ailleurs, Napoléon a fait une erreur importante parce qu'il a laissé partir quelqu'un, comme Florence l'a dit, qui a toujours été l'homme obstacle un petit peu de Napoléon. D'autant plus détesté par Napoléon, pas aimé par Napoléon, qu'en plus c'était un grand séducteur, il s'était mis dans sa poche toute la famille de Bonaparte qu'il adorait. Donc, et à partir de là, bah, il devient prince royal de Suède et c'est les intérêts de la Suède, comme vous l'avez dit, qui priment. Alors ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'évidemment, il a fait tirer sur les soldats français à Leipzig en particulier, un certain nombre de batailles pendant la campagne d'Allemagne. Bon, il était dans une situation complexe, évidemment, mais il n'était plus français, il était un prince de Suède. Donc, évidemment, tout le monde disait, bah, c'est un déserteur, il a trahi.
Ah oui, la voix populaire, le condamne. Oui. Hein.
Et puis Napoléon a enrichi tout ça. Il y a un très beau texte qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais texte de début 1813, où Bernadotte explique aux Français pourquoi il est là et qu'il n'en veut pas aux Français, c'est surtout la chute de l'Empire qu'il veut. Et le texte sera caché.
Ce qui est un peu juste, c'est au moment, juste avant la campagne de Russie, quand il aide vraiment Alexandre, qu'il explique à Alexandre quelle est la tactique de Napoléon.
Oui, Armfeld avait déjà fait, il était plusieurs à connaître relativement bien, mais c'est vrai qu'il y a une correspondance entre Alexandre et
Herodote. Il y a une sympathie avec Alexandre.
Il a joué son jeu, en fait. Pour les Suédois, c'est pas un traître. Pour les Français, ça le restera en partie, mais on voit bien qu'il y a une évolution. C'est pas si simple que ça. Et puis, c'est un combat entre deux hommes, en définitive, Bernadotte, Napoléon, qui ont eu des réussites très importantes. Bernadotte est un grand souverain pour les Suédois, en fait.
Avant de rentrer donc dans chaque chapitre que vous avez particulièrement écrit, j'aimerais vous poser cette dernière question. Quelle définition donner du traître ?
Complexe.
Du vrai traître, hein ?
Du vrai traître.
Pas du perdant. Du vrai traître.
Moi, je dirais peut-être que c'est celui qui fait le mauvais choix au mauvais moment et qui ne revient pas en arrière.
Oui.
Il peut le faire par idéal, il peut le faire par... sans être intéressé particulièrement.
Et qui ne revient pas en arrière.
Le vrai traître,
c'est-à-dire que c'est peut-être...
Mais il ne revient pas en arrière,
c'est ça que j'ajoute.
Le fait de ne pas revenir en arrière.
On peut faire le mauvais choix au mauvais moment, mais celui qui persiste et qui ne revient pas en arrière... là, effectivement, il y a une...
C'est celui qui change d'allégeance, c'est celui qui a donné sa foi et qui retire sa foi. Il y a quelque chose de presque mystique.
J'ajouterais la préméditation, quand même. Le vrai traître, c'est celui qui prémédite, qui va préméditer sa trahison.
Judas.
Quand vous avez quelqu'un comme Ney, par exemple, qui va trahir pas mal de fois...
Vous en parlez, en effet.
Ney, c'est pas un traître. C'est un naïf, on va dire, éventuellement. C'est un opportuniste. Il ne sait plus très bien où il en est. Ben, il va là, il revient là. Voilà, bon, il va payer de sa vie, donc, puisqu'il sera fusillé. Celui qui si on prend Talleyrand, il prédémite. Hein. Depuis 1807, il prépare la chute de l'Empire. Il prépare la chute de l'Empire. Donc, résultat, voilà un vrai traître. C'est un traître.
Et il en fait son intérêt.
Dit-il, l'intérêt de la France, mais il en fait son intérêt aussi.
Et il y a la persistance. C'est pour ça que je disais le mauvais choix au mauvais moment, mais qui persiste. C'est-à-dire qui, même au moment où il le reconnaît, il y a un certain nombre de personnalités historiques qui écrivent dans leur autobiographie, dans leur mémoire, je sais que je passerai pour un traître, je sais que je suis un traître. Mais voilà, c'est comme ça.
Comment t'expliquer que Talleyrand est un personnage admiré, ne serait-ce que pour son esprit, mais admiré aussi sur le plan politique. Il n'est surtout pas considéré comme un traître, alors qu'il y aurait, vous l'avez rappelé, de multiples raisons pour le considérer comme un traître. Il a vraiment trahi à plusieurs reprises et en touchant les dividendes. Comment t'expliquer que Talleyrand n'est pas considéré comme un traître ? Et comment considérer que Napoléon ne l'ait pas sanctionné aussi pour ça ? Parce que Napoléon savait qu'il touchait de l'argent, qu'il avait besoin.
Il en avait besoin.
Comme de Fouché, c'est des hommes dont il avait besoin. Napoléon, il s'appuie sur un certain nombre de... Il s'appuie d'abord sur la bourgeoisie d'affaires qu'il a apportée au pouvoir. Et puis, après, il crée une noblesse d'empire. Mais ces bourgeois d'affaires, dès qu'ils vont voir que les affaires commencent à mal tourner, ils vont se retirer. 1814, c'est ça aussi, c'est la bourgeoisie d'affaires. Je rappelle dans le livre sur Marmont, une séance qui a lieu au moment de la capitulation de Paris. Toute la bourgeoisie d'affaires est autour de Marmont à Paris en lui disant « c'est bien ». Je rappelle que Marmont, son beau-père, c'était Perregaux, donc l'une des grandes banques parisiennes. Et toutes les banques parisiennes voulaient la chute de l'Empire parce que c'était mauvais pour les affaires. Donc, en état, Napoléon, on le balaye. Il a été porté par la bourgeoisie d'affaires, on lui retire le pouvoir. On va aller vers la Restauration, puis vers Louis-Philippe. D'ailleurs, même chose pour lui. En 1830, on retire le pouvoir à Charles X. C'est Louis-Philippe qui va gérer mieux les affaires, puis Napoléon III, éventuellement. C'est toujours la bourgeoisie d'affaires qui mène.
Et ça rejoint peut-être, pour compléter ce que tu dis, l'idée que le traître est celui qui est vraiment dans le camp des perdants et qui y reste. Celui qui... Talleyrand, il s'est retrouvé dans le camp des vainqueurs.
Oui, c'est
et donc,
ça. On revient aux mêmes choses.
Et puis la dimension... Il y a aussi... Talleyrand, on pourra dire énormément de choses dessus, mais il y a la dimension historique du personnage et sa dimension personnelle. Enfin, il surpasse, si je puis dire, de très nombreux traîtres dont nous parlons dans le livre, qui sont des gens parfois très médiocres.
Oui.
On peut accuser Talleyrand de beaucoup de choses, mais pas d'avoir été un esprit médiocre.
Oui.
Ça, certainement pas. Et donc, cette association, si je puis dire, de la médiocrité, en quelque sorte, et de du fait d'être dans le camp des perdants, systématiquement,
qui vous condamne.
Contribue aussi, qui condamne définitivement pour l'histoire, et qui contribue, je pense, à définir aussi ce qu'est un traître aux yeux de l'histoire.
Et c'est le point commun de beaucoup de traîtres, hein, mis à part les immigrés qui sont un petit peu à part là-dessus. C'est l'idée qu'il y a un besoin de reconnaissance. Ils trahissent parce qu'ils ne sont pas assez reconnus. C'est le cas d'Arnold, c'est le cas de Skimporton, c'est le cas de Wang, c'est le cas de Mazen, c'est le cas de Murat. Murat ne trahit pas, attention.
Non. Attention. Ah non, je le défends alors.
Non, mais il y a un besoin de reconnaissance en fait.
Lié souvent.
Et ne rejoint pas l'empereur quand même.
Non. Qui est lié souvent à une blessure personnelle ou à une accumulation de blessures personnelles. D'un honneur blessé, d'un sentiment d'avoir été trahi, qui amène finalement à trahir, si je puis dire. C'est souvent ça qui va déterminer le...
Mais d'ailleurs, pour vraiment un tout dernier mot sur Bernadotte, c'est ça aussi. Hein, parce que quand il va en 1810 en Suède, il y va, il est plutôt partant pour faire des liens d'amitié, garder l'amitié avec la France. Et en fait, c'est Napoléon qui ne joue pas bien. Déjà, il le laisse partir, ce qui, tout à l'heure, c'était une erreur. Et puis ensuite, il le traite comme n'importe qui. Ce n'est pas un souverain, c'est un prince royal. Il ne veut pas discuter avec lui. Et il le rabrouille. C'est l'ambassadeur de France, Alquier, le traite comme un douanier en chef. Bernadotte, il ne supporte pas. Donc, résultat, reconnaissance, allez, je fais mon choix.
C'est un peu l'histoire de Jeanne de Savoie qui aurait pu figurer aussi dans ce recueil, mais lui, dans le camp des vainqueurs, en quelque sorte. Hein. Mais Jeanne de Savoie, qui est méprisé par Louis XIV et qui rejoint l'Autriche parce qu'il est méprisé, et la France perd un très grand chef de guerre. Alors, si on donnait cette définition conjointe là, du traître, et puis nous allons rentrer quand même trois quarts d'heure, trois invités, trois traîtres. Alors, dans le cas de la traîtrise, il y a préméditation, il y a les mauvais choix, la persistance dans les mauvais choix, il y a l'abandon de ses convictions, l'abandon de sa foi, en quelque sorte. Il y a aussi une certaine médiocrité, parce qu'on s'estime pas reconnu, et puis on est dans le camp des perdants. Alors on peut dire, en gros, c'est cet ensemble-là qui qualifie ce que c'est que la traîtrise, ou ce qui amène sur le chemin de la traîtrise. Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous rentrons dans trois histoires. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup le temps d'aller au-delà ce soir. Ah, Ali me fait signe. Donc, on va faire juste, puisqu'on... une petite pause de quelques secondes pour un message important pour la radio, et nous rentrons donc dans les chapitres.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Franck Favier, Florence de Baudu et Sébastien Bertrand, qui sont tous les trois historiens et qui nous éclairent sur cette notion de traîtrise et d'infamie dans ce livre, cet ouvrage collectif publié aux éditions Passé Composé, Traître, nouvelle histoire de la famille. Et puis, c'était un peu général, on est rentré dans le particulier quand même, à travers un certain nombre d'exemples, nous a permis d'arriver à cette définition conjointe. Qu'est-ce que c'est que la traîtrise, et nous avons un auditeur, Florence de Baudu, qui vous salue et salue ce livre. Vous étiez venu à Radio Courtoisie, dit-il, vous présenter un livre merveilleux, Oubliez la terreur. Non. Donc, ce n'est pas vous. c'est pas grave. C'est pas grave.
J'ai écrit un livre sur la terreur, mais ça c'était pas.
Bon, alors peut-être que le titre, peut-être que notre auditeur.
Ça s'appelait
le lien
du sang. Voilà, c'était sur la terreur. Oui.
En tout cas, ce soir, là, je signale aux éditeurs ce livre passionnant sur traite nouvelle histoire de l'infamie. C'est un livre aussi qui nous en rappelle l'esprit, qui nous ouvre l'esprit en fait sur la complexité de l'histoire et la complexité des choses, et qui ne faut pas non plus systématiquement se placer en juge, hein, parce que les choses sont souvent bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. Alors, je vous propose de rentrer dans le premier traître, si vous m'utilisez cette expression. Il s'agit de Springporten, et le sous-titre c'est « Traître ou patriote ». Franck Favier, vous avez écrit ce chapitre, vous en avez écrit d'autres, hein, bien sûr, dans ce livre, donc vous êtes le co-directeur, hein, c'est avec Vincent et Gelet. Springporten, pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Et je vous laisse raconter.
Alors, Springporten, c'est le traître suédois, en définitive. Chaque pays a son traître, en définitive, son archétype de traître. Et Springporten est celui qui a trahi la Suède dans les années 1780, en définitive, notamment Gustave III. Il y en a deux traîtres, en fait. Il y a Strimporton, il y a Armfeld. Mais Strimporton était, à mon avis, plus intéressant parce qu'il y a une dimension à la traîtrise qui est la dimension patriotique. Notamment parce que Strimporton, d'où le titre, hein, traite aux patriotes, parce que Strimporton est d'origine finlandaise, donc suédo-finlandais, et il va militer pendant plusieurs années pour créer une république de Finlande, à l'exemple des provinces unies des Pays-Bas. Donc il y a une trahison, mais en même temps un patriotisme. Et c'est ce qui m'a intéressé là. Il va passer du côté russe ici.
Alors, quel justement, c'est aussi l'intérêt de votre livre, c'est de présenter la situation dans ces pays du Nord. Nous ne sommes pas du tout familiers avec ça. Quelle est la situation? Nous avons trois pays, Norvège, Finlande et Suède, qui sont sous domination suédoise. On est au début du 18e siècle. Pouvez-vous décrire la situation politique l'époque, avec aussi le jeu de la Russie. Ça,
tout à fait.
Comme quoi les grandes tendances demeurent.
Les choses ne sont pas beaucoup. La Norvège est un peu à part, parce que la Norvège, à l'époque, jusqu'en 1814, est danoise. Donc elle est à part. Par contre, la Finlande est, depuis le Moyen-Âge, une province suédoise, bon, qui a été érigée donc en province autonome, en grande partie ici, mais donc qui rapporte quand même à la Suède environ 40% de ses revenus. Donc c'est quand même une région importante. Donc quand la Suède va perdre la Finlande en 1809, elle va perdre beaucoup. Et c'est une région qui a obtenu un statut d'autonomie, mais qui reste globalement globalement assez dépendante. C'est comme ça que les Suédois, les Finlandais le voient. Les Finlandais, ils jouissent à peu près des mêmes droits que les Suédois, en grande partie ici. Et ils envoient leurs représentants à la Diète, et vous avez des nobles finlandais qui sont présents à la Diète. Hein, Strimporton, pas celui-ci, mais son frère, est présent à la Diète. Et les familles se sont souvent agglutinées agglomérées, plutôt, le terme ici est important. Mais il faut attendre, par exemple, seulement le 18e siècle pour que le finnois, par exemple, soit reconnu comme une langue nationale, puisque c'est le suédois qui est imposé. Et donc, à partir du 18e siècle, comme dans beaucoup de pays, on a un sentiment national qui commence à se créer, qui va beaucoup plus développer au 19e siècle, mais Strimporton va en être en définitive le garant, le porte-parole. Ce qui est important aussi, c'est que la Suède, dans cette période du 18e siècle, c'est un pays qui est en difficulté, dans la mesure où depuis 1721, la Suède a perdu son emprise sur la Baltique après la défaite de Charles XII face à Pierre le Grand. Et le traité de Nystad lui a fait perdre pas mal de territoire. C'est un pays qui est, jusqu'à Gustave III, un pays qui est sous domination d'un paramilitarisme qui fonctionne pas très bien, entre ce qu'on appelle les chapeaux et les bonnets. Alors les chapeaux, c'était en gros les conservateurs liés à la noblesse, et les bonnets, alors plutôt du côté français, et les bonnets étaient plutôt donc du côté de la bourgeoisie, donc plutôt du côté anglais. Donc il y a des affrontements assez importants. Et il faut attendre l'arrivée de Gustave III, qui va faire un premier coup d'État en 1772 pour remettre en place un pouvoir fort en Suède. Il fera un deuxième coup d'État en 1789, où là, il va il va réduire le pouvoir des nobles et pour s'appuyer sur les paysans en particulier. Donc, ça rentre dans un débat assez classique depuis le 17e siècle, de savoir quelle est la place de la monarchie par rapport à la noblesse et quelle est la place de la noblesse par rapport à la monarchie. Il n'y a pas qu'en Suède, ça existe partout ici. Et ça va rentrer le débat avec Strimporton de la Finlande rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a à la fois pour Strimporton. Il y a trois choses pour Strimporton qui expliquent la trahison de Strimporton. Il y a évidemment le débat donc du poids de la noblesse par rapport à la royauté, qui n'est pas nouveau, puisque dans notre chapitre que j'ai écrit sur la période des Vasars, on a le même débat. La deuxième question, c'est la question évidemment de la Finlande, que Strimporton va prendre comme élément pour expliquer sa trahison. Il veut l'indépendance de la Finlande, et il y aura toute une conjuration qu'on appelle la conjuration d'Anjala en 1788, dont il sera l'un des moteurs, même s'il n'en est pas directement l'instigateur. Et puis, il y a une troisième raison, c'est qu'il manque de reconnaissance. On revient à ça, c'est la reconnaissance. Il n'est pas vraiment reconnu par son frère, déjà, n'a pas été reconnu comme l'un des vainqueurs, on va dire, du coup d'État de 1772, puisque
Il soutient le roi. Hein,
il soutient le roi, mais le roi l'a pas attendu véritablement. Il a pris des positions en Finlande, mais le roi l'a pas attendu à Stockholm pour véritablement s'installer. Et puis Göran Magnus Strindbjörnsson, donc le frère, lui, bah, est pareil. Il est quelqu'un qui est très doué militairement, mais il n'obtient jamais les postes qu'il veut.
Il est dans l'armée suédoise. Il est général, je crois.
Général dans l'armée suédoise. Il va s'occuper évidemment de la Finlande en particulier. Et bon, comme il ne reçoit pas assez d'argent, bah, il part en Europe. Il part en France. En Europe, il fait le tour d'Europe comme faisaient les grands nobles ici. En France, comme Fersen, comme d'autres Suédois, comme Stedig. Il veut s'engager dans l'armée d'ailleurs, dans le Royal Suédois, et puis à partir aux États-Unis, ses futurs États-Unis, on lui refuse. Et Strindbjörnsson, bah, il noie un peu sa mélancolie, il en veut beaucoup à Gustave III qui ne l'aide pas, il lui réclame de l'argent, etc., etc. Et donc les trois éléments clés vont le pousser, en 1786, à passer ce que j'appelle le Rubicon, pour prendre l'expression romaine.
Je vous interromps, pardonnez-moi. Il a 26 ans. Il est né en 1740. Avant de revenir à...
46 ans, il a. C'est né en 1740. C'est pas grave. Il n'est pas vieux.
C'est très important, l'âge et la date. Talleyrand nous a rappelé que... vous écrivez que la majorité des Finlandais est fidèle à la royauté suédoise.
Oui. Oui, ils sont fidèles à la royauté suédoise, dans la mesure où le peuple voit bien qu'il y a quand même des soutiens, que le souverain suédois envoie quand même pas mal de subventions, pas mal d'aides ici. En fait, ceux qui sont contre Gustave III, c'est plutôt la noblesse, qui veut récupérer des terres, qui veut récupérer le contrôle des terres en grande partie, qui vient parce que le roi de Suède a tendance, et Gustave III a tendance, à prendre les terres de la Finlande et à les donner à ses plus proches. Donc il y a un débat par rapport à ça, par rapport aux terres, entre autres, et la jeune noblesse finlandaise, bah, elle va pousser en grande partie, justement, pour une indépendance. Ou du moins, pas forcément une indépendance, mais au moins, enfin, une indépendance ou pour passer sous le contrôle de la Russie. Et il y a tout un débat, parce que les Finlandais ne peuvent pas, seuls, évidemment, devenir indépendants, il leur faut un soutien. Et c'est ce que Strindbjörnsson va faire en 1786, quand il part de Suède, il va directement à Saint-Pétersbourg, pour obtenir le soutien de Catherine II, pour Catherine II, qui le regarde un peu avec méfiance, mais il y aura un débat là-dessus, et quand la guerre entre les Suédois et la Russie va commencer en 1788, bien Strindbjörnsson sera celui qui donnera évidemment des éléments de la défense suédoise. C'est pour ça qu'il est considéré comme un traître. C'est lui qui va donner les éléments de la défense suédoise. La guerre suédo-finlandaise dure de 1788 à 1790. Ça se termine globalement par un match nul, parce que les Suédois finlandais vont résister en grande partie, mais il y a quelque chose qui est cassé en définitive.
Et qui est difficile à comprendre, c'est qu'il joue la Russie contre la Suède.
Oui.
Finalement, c'est passé d'une dépendance à une autre dépendance, et peut-être même pire, parce que l'Empire de Russie est infiniment plus puissant. La Russie a vaincu la Suède à plusieurs reprises ces derniers temps.
C'est vrai, et c'est ça qui montre bien que c'est traître ou patriote, parce que en Russie, il est quand même reconnu. J'ai dit tout à l'heure, Catherine II ne l'écoute pas vraiment, mais il est quand même reconnu en grande partie. On lui donne un poste général, on lui donne une armée à commander, on lui donne un certain nombre d'avantages qui fait qu'il a une dotation importante ici et qui va donc lui permettre, il a une reconnaissance, et on a dit nos traîtres sont souvent des gens qui se sentent mésestimés. Ben, ils se sentent estimés. Et il va, comme ça, diriger l'armée. Alors, 1790, évidemment, il y a une défaite. Enfin, la guerre suédo-russe, va se terminer par un match nul, comme je disais tout à l'heure. À ce moment-là, il va y avoir une conjuration, la conjuration d'Anjala, qui est une conjuration qui va essayer de renverser Gustave III, bon, qui va échouer. Gustave III va réussir à faire arrêter tous les traîtres. Notre ami Strindbjörnsson, lui, est en Russie, donc il ne risque rien.
Mais il est impliqué dans cette conjuration.
Il est impliqué dans la conjuration, mais la conjuration va continuer, puisque, comme tout le monde le sait, vraisemblablement, Gustave III va mourir en mars 1792 lors d'un bal masqué, tué par Ankarström, qui est un ancien de la conjuration d'Anjala. Donc il y a peut-être la main de Strindbjörnsson, même si on n'a pas de preuve particulière là-dessus. Donc la conjuration va aller jusqu'au bout. Et Strindbjörnsson est considéré comme aussi peut-être celui qui a été le moteur de l'assassinat de Gustave III. Par la suite, il n'aura pas forcément gagné beaucoup de choses. lorsque l'annexion va se faire en 1809, lorsque la Finlande passe du côté russe, il sera nommé gouverneur de la Finlande, mais ça ne durera pas beaucoup parce qu'il n'est pas très estimé en Finlande et il va mourir en 1818 en Russie, bon, sans considération.
1808, c'est un nouveau conflit. Qu'est-ce qui déclenche le conflit entre la Suède et la Russie en 1808?
C'est la guerre avec Napoléon, enfin c'est les guerres napoléoniennes, c'est-à-dire que Tilsit, la guerre est terminée entre la Russie et la France, après la bataille de Friedland. Donc, en définitive, la Suède, qui avait déclaré la guerre à la France en 1805, après l'assassinat du duc d'Enghien, puisque c'est le roi Gustave IV Adolphe, qui avait été évidemment choqué par l'assassinat du duc d'Enghien, les Suédois sont rentrés en guerre en 1805, et à partir de là, en 1808, les Russes sont les alliés des Français et se retournent contre les Suédois. Ce qui est intéressant pour la petite histoire, il me reste 2 minutes pour laisser la parole à mes camarades. Ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que l'armée française qui devait envahir la Suède et s'est positionnée enfin en Danemark, alliée de la France, elle est dirigée par un certain Bernadotte, qui n'envahira pas. Puisque la situation... Mais il aura toutes les cartes. Il a étudié, il sait déjà comment est la Suède. Il a déjà perçu un petit peu le potentiel qu'il y avait.
Mais la Finlande devient russe à partir de...
Ah, la Finlande devient russe, tout à fait. À partir de 1809, il y a un grand duché de Finlande intégré à la Russie jusqu'en 1917.
Ils ne sont pas rancuniers, les Suédois, quand même, contre les Russes, puisqu'ils se sont alliés en 1814.
Oui, non.
Ils ne sont pas du tout rancuniers. Ils ont perdu quand même, vous l'avez dit, ce n'est pas rien, 40% de leurs sources de revenus qui sont passés chez...
C'est le génie de Bernadotte, là, on revient à lui. C'est qu'en 1814, Bernadotte a bien compris que ce serait impossible de reconquérir la Finlande, de toute façon. Et en 1814, il donne, on va dire, un petit peu de pain aux nationalistes suédois avec l'annexion de la Norvège.
Springporten, après cette annexion, ce grand-duché donc, de Finlande annexé à la Russie, on peut imaginer que ce grand-duché a moins d'autonomie avec l'Empire russe qu'avec Suède.
Springporten, je vous disais, il a été nommé gouverneur de la Finlande, puisqu'il était quand même bien placé. Mais ça marche pas, parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis en Finlande qui considèrent qu'il a trahi quand même en partie. Bon, il est assez vaniteux, il n'est pas très compétent en matière d'administration, c'est un bon militaire, mais pas un très bon administrateur. Bah, résultat, on va lui retirer la position, ça sera donné d'ailleurs à un général de l'armée russe qui s'appelle Bagration, si je me rappelle bien, et il va se retirer, il va mourir dans la misère en 1818 ou 1819, si je ne m'abuse, donc à Saint-Pétersbourg, pardon.
Comment est-il considéré, alors, en Suède? Dans l'histoire contemporaine, on le considère certainement comme un traître. Oui. Ça, la question ne se pose pas vu du côté suédois. En Finlande, comment est-il...
La question, c'est ça. C'est vous avez un auteur
dans l'histoire contemporaine.
Alors, est-ce que les Finlandais connaissent beaucoup Strindberg? Je ne suis pas persuadé. Mais vous savez, les gens avec l'histoire sont toujours un peu compliqués. Mais les historiens de Finlandais, Stig Ramelm, par exemple, qui est un historien finlandais, considère que c'est les deux à la fois. C'est traître et patriote. C'est plutôt un patriote, mais un patriote un peu opportuniste. On va dire ici, parce qu'en définitive, au départ, est-ce qu'il était vraiment pour la Finlande libre? Il était plutôt pour son intérêt et pour devenir éventuellement le premier président de la Finlande, puisqu'il se référait beaucoup à Benjamin Franklin et à Washington. Il aurait voulu être le George Washington finlandais. Ah, ça ne sera pas lui, il y aura d'autres présidents finlandais plus célèbres que lui par la suite.
Alors comment doit-on considérer, nous, voilà, autour de cette table ce soir? Je vous pose nos trois invités, Franck Favier, bien sûr, parce que vous avez écrit ce chapitre, Florence de Baudu, bon, vous allez nous raconter l'histoire des immigrés, et puis Sébastien Bertrand, pour Zhang.
Wang Jingwei, c'est pas
évident. Wang Jingwei, j'ai du mal, mais je vais y arriver.
Un W, Wang.
Voilà.
Wang, c'est le Dupont chinois.
Oui, donc c'est pas très précis, quoi. C'est ça qu'on dit. Il faut vraiment le compléter.
Des Wang en Chine, il y en a des millions.
Bon. Alors, traître ou pas traître, Springporten?
Traître, patriote.
Oui, je suis patriote pour vous.
C'est pas le traître dans toute sa splendeur.
C'est pas le traître, absolument.
C'est pas le traître majuscule.
Non. Ce qu'a raconté Franck Favier est extrêmement intéressant parce que précisément, ça montre l'ambivalence de la notion de traîtrise, l'ambivalence du personnage. Ouais. Et tu parles d'histoire de la Suède et de la Finlande. Je pense au maréchal Mannerheim. qui est considéré aujourd'hui, lui, comme le De Gaulle finlandais. Oui. C'est un personnage qui est extrêmement populaire en Finlande. Il a une statue équestre à Helsinki, etc. Mais il ne faut pas oublier que Mannerheim est, je crois, le seul grand chef militaire du XXe siècle à avoir obtenu des décorations militaires des deux camps dans les deux guerres mondiales.
Oui. Tout à fait.
C'est-à-dire qu'il a été à la fois dans les camps opposés pendant la Première et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, peu s'en est fallu, il a rencontré Hitler. Et pourtant, en 1944, il signe un armistice, il passe dans le camp des Alliés, etc. Et Mannerheim, aujourd'hui, passe pour un très grand patriote aux yeux des Finlandais. Mais peu s'en est fallu, encore une
Tout
fois,
à, fait.
À certains moments de l'histoire, si il avait fait preuve de moins de sagacité, de moins de lucidité, s'il avait pris la mauvaise décision au mauvais moment... Il serait devenu un traître aux yeux des Finlandais.
Mais son cas, peut-être.
Voilà, après, je ne veux pas rentrer dans le. J'ai un peu travaillé sur Mannerheim aussi.
Quand on regarde l'histoire de Mannerheim, c'est une histoire quand même assez extraordinaire. Je crois que l'indépendance de la Finlande, malgré les communistes, malgré l'armée rouge, c'est quand même à lui, entre autres. À lui, c'était chef de l'époque. Mais Mannerheim, il ne passe pas de l'un à l'autre en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire que là, on a Springporten qui passe de la Suède aux Russes. Mannerheim, lui, c'est l'indépendance de la Finlande. Puis après, il compose. Il compose face à l'armée rouge. Et il compose aussi face à Hitler.
Je ne remets pas en cause son action, mais l'image que ça peut donner, l'image que peuvent en avoir les Finlandais ou qu'auraient pu en avoir les Finlandais. Il y a une partie de l'historiographie finlandaise qui n'est pas particulièrement favorable à Mannerheim aussi. C'est quelqu'un qui a été dans le camp des Blancs pendant la guerre civile, qui a fait beaucoup de victimes. C'est quelqu'un qui aussi se retire dans les années 1930, parce qu'on ne l'écoute pas tellement. Il s'inquiète de la menace russe, etc. Et le parti pris qu'il prend en 1941, comme en 1944, n'est pas forcément suivi par tout le monde. Donc il ne fait pas non plus l'unanimité. C'est pour ça que, sans remettre effectivement son idée, c'est pour ça que je dis que c'est considéré comme le De Gaulle finlandais. Et c'est un personnage qui a chevillé au corps l'indépendance de la Finlande et la reconnaissance de son pays, mais qui, à certains moments de l'histoire aussi, aurait pu basculer ou aurait pu avoir cette image du traître à la nation, parce que
on rentre dans un autre débat. Des hommes politiques, grands hommes politiques qui ont fait des choix à un moment donné.
Mais c'est vrai que ça m'a fait penser le parcours que tu as.
Il y a un exemple qui vient de sortir sur la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale. Je ne me rappelle plus de l'auteur, mais je le signale aux auditeurs.
En tout cas, Springporten est dans le clan des vainqueurs.
Voilà.
Et malgré ça, il est quand même dans la liste des traîtres, donc il a pas vaincu. Alors juste un message, après nous passons à un message d'une autrice, et nous passons donc aux émigrés. Donc comme traître, elle pense à Simon Deutz, celui qui a vendu la duchesse de Berry à la police de Louis-Philippe en révélant sa cachette derrière une plaque de cheminée, alors qu'elle était son hôte, et à qui le ministre de Louis-Philippe, ou je ne sais plus quel officiel, tendit les billets de banque au bout de pincettes par mépris pour ce Judas des temps modernes.
Ah là, c'est un Judas des temps modernes.
Il va falloir faire un tome 2.
C'est moins Deutz. Il faut peut-être aussi souligner quand même l'impact historique du personnage. C'est-à-dire que la traîtrise, elle peut commencer très bas, la traîtrise. Dans ces cas-là, il va y avoir un cortège de dénonciateurs.
Oui, c'est vrai.
On n'en finirait plus. Il faut quand même qu'il y ait une certaine ampleur historique.
Alors je vous propose, je vous propose que nous passions au chapitre où l'on évoque donc la question des émigrés. Les émigrés sont-ils des traîtres, Florence de Baudus? Vous avez écrit donc ce chapitre parce que c'est un sujet qui vous est naturellement cher, je crois aussi pour des raisons familiales. Et vous faites commencer l'histoire de ce chapitre au 15 juillet 1789 à Versailles, où vous avez le prince de Condé et son fils donc, qui rejoignent Louis XIV au lendemain de la Bastille. Alors, je vous reste, vous nous racontez donc cette histoire des émigrés et la question qui se pose les concernant.
Mais ça va être encore plus compliqué parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup et il y a eu des vagues. Donc la première vague, en effet, c'est le prince de Condé qui arrive de Chantilly, qui sait ce qui s'est passé et qui arrive avec son fils, le duc de Bourbon, pour se mettre au service de son cousin le roi. Le prince de Condé est alors lieutenant général du royaume. Il considère que c'est à lui de protéger le roi contre les exactions, contre les révoltés, ce qu'il appelle ceux qui veulent atteindre à la vie du roi. Mais Louis XVI ne veut pas être protégé par le prince de Condé. Alors, bon, il y a une, je pense qu'il ne veut pas subir l'ombre de ce cousin prestigieux. Peut-être veut-il aussi le protéger. En tout cas, il lui demande, il lui ordonne de quitter le royaume avec sa famille, comme il l'ordonne aussi à son frère, à son jeune frère, le comte d'Artois, qui doit partir avec ses fils. Là encore, est-ce que c'est pour protéger un peu de la dynastie des Bourbons? En tout cas, c'est ce qui sonne le départ de l'émigration. Alors, évidemment, ils partent pour Bruxelles. Ils quittent assez facilement le royaume et ils arrivent chez Marie-Christine, la sœur, une sœur de Marie-Antoinette, qui les accueille sans une grande passion et qui leur demande de repartir assez vite. De toute façon, le prince de Condé a caché des diamants dans ses habits. Enfin, et puis, ils sont persuadés, c'est un voyage d'agrément, ils sont persuadés qu'ils vont partir quelque temps et puis qu'ils vont revenir en France. Alors, bien sûr, le roi Gustave IV, c'est encore Gustave III à ce moment-là. Oui, Gustave III voudrait bien les recevoir chez eux. Le grand-duc Paul de Russie voudrait bien aussi les recevoir chez eux. Mais eux veulent rester près des frontières de la France. Et ils acceptent, enfin, ils vont demander l'hospitalité au roi Victor Amédée de Savoie, qui est le beau-père du comte d'Artois, mais aussi du comte de Provence et aussi de la princesse Clotilde, leur sœur. Donc, il a trois raisons de donner cette invitation un peu désagréable, parce que les princes vont être suivis assez rapidement pas mal de la noblesse de cour. Alors, c'est cette noblesse-là qui est partie un peu brouillonne, contente de créer des intrigues et tout ça, et qui va donner une très mauvaise image de l'émigration. Donc, je pense que c'est eux, au départ, parce qu'ils sont partis sans aucune... pour continuer Versailles, de l'autre côté de la frontière, en fait. C'est ça qui se passe. Mais en France, la révolution avance. Les troubles qui ont commencé à Paris atteignent toute la province. Il y a ce qu'on appelle la Grande Peur, tout l'été 89. Beaucoup de châteaux en province sont pillés, incendiés. Les occupants sont massacrés, torturés. La révolution gagne très, très rapidement. Mais surtout, ce qui va être le plus... la grande masse qui va partir, c'est au moment de la constitution civile du clergé. C'est vraiment là...
1790, hein.
Nous sommes en 1790 et l'Assemblée nationale veut contrôler en fait l'Église de France. D'abord parce que l'Église de France est très riche et que l'Assemblée nationale n'a pas d'argent, donc c'est une bonne façon de remplir les caisses. C'est ensuite un moyen de faire des prêtres des fonctionnaires, donc de les avoir sous la coupe, et surtout aussi de les enlever du contrôle du pape et de ne pas de les enlever de l'autorité romaine. Donc c'est trois bonnes raisons de faire signer cette constitution civile du clergé. Alors Louis XVI, qui ne veut pas de guerre civile, mais qui veut encore moins une guerre religieuse, s'imagine en acceptant, en entérinant cette constitution civile du clergé, qu'il va sauver son peuple. Évidemment, c'est la catastrophe et les prêtres vont être, comme vous le savez, vont être obligés de partir parce qu'il y a tout de suite un schisme en France. Il y a ceux qui acceptent de signer et qui vont devenir les prêtres jureurs et puis ce qu'on appelle les prêtres réfractaires qui vont être obligés soit de quitter la France ou qui vont être guillotinés ou qui vont même finir sur les pontons de Rochefort dans des situations absolument dramatiques.
Ah, vous dites dans ce chapitre consacré aux émigrés, vous citez à peu près 100 000 à 150 000 personnes.
Sur 28 millions de Français, donc finalement c'est très très peu.
C'est un fait, mais alors ce qui était très étonnant, c'est la part du tiers-État. Oui. 50, la majorité, ce sont des gens du tiers-État.
Oui, oui.
51% des immigrés sont du tiers-État et seulement 17% de la noblesse. Donc c'est avant tout une émigration populaire.
Mais on le sait moins parce que cette émigration populaire n'a pas laissé d'écrits, alors que la noblesse et le clergé, ils ont tous écrit des mémoires, et c'est comme ça qu'on a peut-être quelquefois une fausse idée de l'émigration.
Et puis l'émigration, il y a l'armée des émigrés.
Alors là, bien sûr, parce que il n'y a pas de notion de patrie encore à ce moment-là. La notion de patrie va justement se placer, va commencer à ce moment-là, lorsque Louis XVI est contraint de déclarer la guerre en 92 à son neveu François, qui va devenir donc l'empereur d'Autriche, l'empereur allemand en tout cas pour le moment. Et à ce moment-là, le prince de Condé, créé à Worms, il est réfugié à Worms, et il va faire venir beaucoup d'officiers de l'armée française qui veulent... le prince de Condé est le seul qui a gagné une bataille pendant la guerre de 7 ans. C'est quelqu'un qui, militairement, qui est une très, très grande, qui est une très grande personnalité. Et il va constituer une armée pour libérer le roi. Pour lui, c'est évident qu'il se bat pour la bonne cause. Or, le problème, c'est que les puissances autrichiennes, allemandes et prussiennes se moquent complètement des émigrés. Il en arrive quand même une vingtaine de mille, c'est pas mal. Mais les puissances alliées vont les séparer en trois corps. Les corps du comte d'Artois, le corps du prince de Bourbon et le corps du prince de Condé. Et ils auront les plus mauvaises armes, ils seront toujours placés dans les... Et en fait, ils ne vont pas tellement se battre. À Valmine, ne se battent pas, ils sont relégués à l'arrière. Et donc ils sont désespérés parce qu'ils voudraient avancer en France. Les puissances alliées ne sont pas tellement obsédées à l'idée de faire gagner ces batailles. Et ça se passe très mal. Donc,
pourquoi il y a une telle défiance envers eux?
Envers eux?
Oui.
Mais parce que
vous l'avez rappelé, Condé est un grand
chef de
guerre.
Peut-être que les puissances se demandent si ce ne sont pas des traîtres, parce qu'ils vont se battre contre d'autres Français. Donc, est-ce qu'ils vont...
Je pense que ça, c'est une raison pour laquelle on ne veut pas
Oui, je pense qu'il y a de ça.
Ça gêne le fait que ce soit des Français.
Bien sûr.
Et qu'ils puissent être traîtres.
Et d'ailleurs,
ça les gêne.
Ah oui, et le duc d'Enghien, dans ce journal, pleure d'être obligé de tuer des Français. Il les admire d'ailleurs, parce qu'ils s'admirent mutuellement. C'est vraiment un très grave dilemme de part et d'autre.
Cette armée est dissoute à quel moment?
Ah ben très vite, tout de suite après la victoire de Jemmapes, l'armée est dissoute. Alors il reste un tout petit corps qui est le corps de l'armée de Condé. Tous les autres sont laissés. D'abord ils sont bannis de France, donc ils ne peuvent plus rentrer en France. Les autres, le prince Condé réunit une petite armée qui va se battre. Plus ou moins financée par l'Angleterre, mais très peu, et qui finalement ira faire un service militaire en Russie lorsque ça ne sera plus possible, lorsque l'Angleterre ne leur donnera plus de finances.
À quel moment les émigrés peuvent rentrer en France et sous quelles conditions?
Alors, Brumaire et tout de suite Bonaparte, tout de même bien soutenu par Joséphine, enfin Joséphine a beaucoup fait pour les émigrés, prononce une amnistie générale, donc il rentre petit à petit, à condition évidemment de reprêter serment, enfin bien surveillé par Fouché, qui surveille quand même cette...
Il y a comme la condition du serment.
Oui.
À Bonaparte.
La condition du serment de ne plus porter les armes, voilà, absolument. Il rentre, effectivement, ils se disent que Bonaparte va peut-être pouvoir remettre la monarchie sur le trône. Et en tout cas, il a arrêté le chaos, donc ça c'est quand même très important. Il y a tout de même un petit groupe d'émigrés militaires qui vont rester autour du prince de Condé, et aussi un autre petit groupe civil qui va rester autour des deux frères des princes, et qui vont attendre, alors eux, 1814 pour rentrer en France.
Et quand ils rentrent en France, certains ont pris les armes, certains ont combattu dans l'armée de Condé. Sont-ils considérés comme des traîtres? Et ça sera la question que je vous poserai à vous, Florence Aubry, et bien sûr à nos autres invités, Franck Favier et Sébastien Bertrand. Comment considérez-vous les émigrés? Sont-ils des traîtres ou pas? Des traîtres à la patrie, même si cette notion était naissante. Alors
on les a spoliés de leurs biens. On les a spoliés même de leur état civil. Ils ont été vraiment complètement dépouillés de tout ce qu'ils étaient en France. Ils reviennent ruinés, endeuillés et perdants. Je ne sais pas. pour moi, ce ne sont pas des traîtres. Mais effectivement, c'est une question de... Aujourd'hui, il ne faut pas les regarder avec les yeux d'aujourd'hui, je pense. C'est le problème de l'histoire. Il ne faut pas faire d'anachronisme.
C'est fondamental.
Bonaparte ne les regardait pas comme des traîtres, puisqu'il les a reçus.
Pas du tout.
C'est ça qui est important, en fait. Vous avez raison de le souligner. Comment l'époque les regardait et pas comme des traîtres, finalement.
Alors, oui, le duc d'Enghien, mais parce que...
Ça, c'est politique.
Voilà.
Oui, c'est particulier.
Mais...
Franck Favier, votre...
Bon, je n'aurai pas grand-chose à compléter.
Traite ou pas traite.
Traite ou pas traite. Non, je crois qu'il y a eu la période, évidemment, de l'armée de Condé, toute cette période de 92, où là, il y avait un sentiment patriotique qui était important en France, qui était en naissance France, avec la convention qui était en création. Mais bon, après les années 94-95, on voit bien que ce n'est plus des traîtres.
Et Sébastien Bertrand, je crois que vous avez dit quelque chose d'extrêmement juste. Il faut les regarder avec les yeux de l'époque.
Tout à fait.
J'ai pas grand-chose à ajouter. Ce sont des gens immigrés égarés, enfin vraiment qui n'ont plus, Florence l'a dit, qui ont perdu tout et qui n'ont plus de repères. Et c'est très complexe dans cette perspective-là. Donc ce sentiment de traîtrise, il est difficile à établir.
Et puis Bonaparte l'a regardé autrement que comme des traîtres. Ben, je crois que effectivement, c'est.
En fait, ce chapitre, c'est le canard de tout le livre.
Non, mais c'était une question qui me semblait intéressante.
Bon, et puis, il y en a aujourd'hui qui continuent à considérer que ce sont des traîtres.
Bien sûr,
on ne citera personne.
Nous avons tous des noms qui nous viennent à l'esprit, qui régulièrement s'expriment sur ce sujet, n'est-ce pas? Nous en arrivons au troisième exemple de traître qui se trouve dans cette brillante collection de traîtres Nouvelle Histoire dans l'Infamie, telle que publiée aux éditions Passé et Composé. Nous avons le plaisir ce soir, chers auditeurs, de recevoir Franck Favier, Florence de Beaudus et Sébastien Bertrand, tous les trois historiens. Alors Sébastien Bertrand, je vous laisse cette troisième exemple de traître qui nous fait changer complètement à la fois d'époque et de zone géographique, puisqu'il s'agit de Wang Jingwei. Ça, j'ai réussi à le prononcer, mais je l'ai sous les yeux. Wang Jingwei, le martyr raté de la République de Chine. Hein, on est au XXe siècle. Alors, je vous laisse la parole. Pourquoi ce choix? Et puis, quelle est son histoire? Et là encore, comment pouvons-nous le regarder? Ou comment les Chinois le regardent maintenant?
Ce choix, je le dois à mon ami Franck, à Franck Favier, qui m'a proposé très gentiment, quand le projet du livre s'est développé, de parler d'un traître dans la sphère asiatique. Alors j'ai d'abord songé, j'avais un certain nombre de Japonais sous la main, si je puis dire, et puis très rapidement j'ai pensé à Wang Jingwei, parce qu'il est totalement méconnu en Occident, donc c'était une manière aussi pour moi d'ouvrir un peu cette porte sur l'histoire de la République de Chine, dont, je le répète, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je renvoie une nouvelle fois, parce que c'est un excellent livre, à l'ouvrage de mon collègue Xavier Paulès sur l'histoire de la République de Chine, qui a le très grand mérite de remettre les pendules à l'heure et de parler des nouveaux historiographique sur l'histoire de la République de Chine qu'on a souvent assimilé à une période de décadence, de déclin, cette espèce de mythe de siècle des humiliations, alors qu'en réalité c'est une période extrêmement féconde et on ne peut pas résumer l'histoire de la République de Chine simplement à l'anarchie, le chaos et puis ce soleil rouge là qui se lève avec la victoire du Parti communiste chinois en 1949. Tout ça est à la fois faux historiquement et très réducteur. Et donc le personnage de Wang était une manière à la fois d'introduire sur l'histoire très mouvementée de cette République de Chine et très méconnue, et puis de parler d'une figure qui réussit l'exploit, si je puis dire, d'être à la fois considérée comme un traître aujourd'hui en Chine communiste et à Taïwan, c'est-à-dire dans la République de Chine. Donc des deux côtés du détroit de Taïwan, dans les deux Chines qui existent au début du XXIe siècle, Wang Jingwei est considéré comme le traître, d'où le surnom d'architraître qu'on a souvent utilisé pour parler de lui. C'est-à-dire que personne ne soutient ou ne cherche à réhabiliter son action, à l'exception notable des membres de sa famille, qui ont développé d'ailleurs à la route atlantique, puisque beaucoup vivent aujourd'hui aux États-Unis, qui ont développé un site internet et toute une série de publications qui visent à montrer la complexité du personnage. Et c'est aussi là-dessus que j'ai voulu attirer l'attention dans ce chapitre, parce que quand on explore un peu la vie de Wang Jingwei, on découvre un parcours absolument fascinant. D'abord, c'est quelqu'un qui fait partie, il est né en 1883, et qui fait partie de cette nouvelle élite de la fin du 19e siècle en Chine, c'est-à-dire des personnes qui font partie, disons, de la bourgeoisie urbaine, cultivée, très éduquée, qui ont vécu à l'étranger, dans d'autres pays, qui ont séjourné dans d'autres pays d'Asie, mais aussi en Europe. Wang a vécu en France pendant de nombreuses années. Et on sait que c'était un grand amateur de vin français. Par contre, à la différence de nombre de ses compatriotes qui ont vécu en France, on sait qu'il n'était pas volage. Il faisait partie d'une des rares exceptions parmi les Chinois qui ont vécu en France à cette époque. Et donc, c'est un personnage qui a une... C'est un, qui a hésité d'ailleurs pendant longtemps entre une carrière dans l'éducation et dans la politique. Il est poète à 16 heures, il a écrit de nombreux recueils de poésie, il est extrêmement cultivé, c'est un spécialiste de littérature chinoise. Ça constituera d'ailleurs un de ses critères de recrutement pour la plupart de ses camarades politiques, hein, le fait de pouvoir d'être camarade de poésie, hein, c'est le terme qui était utilisé. Donc il y a cette facette-là qui déjà remet en cause un petit peu l'idée du traître, hein, du personnage un peu, comment dirais-je, frustre, petit, minable en quelque sorte. L'autre élément, c'est qu'on imagine souvent, on a parfois une perception physique du traître, et puis quand on parle d'un traître chinois, il y en a pour qui certains disent « Ah bah oui, c'est bien connu, la perfidie, etc. » Or, Wang, il échappe à tous ces stéréotypes. Pour un Chinois du Sud, il est grand, il est très beau, c'est pas du tout quelqu'un de chétif, mais au contraire qui est bien bâti. Il est très charismatique. Il plaît beaucoup d'ailleurs. Il fait partie de ces icônes, si je puis dire, des débuts de la République de Chine. Et donc tous ces éléments-là contribuent déjà à en faire une personnalité plutôt exceptionnelle et qui échappe à tous ces stéréotypes de la traîtrise. Alors, pour ce qui est de sa place dans l'histoire de la République de Chine, alors j'ai pas beaucoup de temps, mais...
Il reste 5 minutes, voilà, malheureusement, mais je suis désolé.
Je vais quand même très, très rapidement dire que cette République de Chine, qui est née en 1912, dans des conditions très difficiles, elle va mettre très longtemps à s'imposer sur un territoire qui est immense, qui est miné par de très nombreux particularismes régionaux, qui font que le défi de l'unité, et le Parti communiste chinois, aujourd'hui, l'a très bien compris, c'est le plus grand défi pour contrôler le territoire chinois. Vous avez un évidemment, hein, plus de 9 millions de kilomètres carrés aujourd'hui, hein, il y avait presque jusqu'à 12 millions à la fin de l'Empire Qing au début du XXe siècle. Et donc ce défi de l'unité, les dirigeants de la République de Chine le relèvent. Et ils ont des difficultés puisque cette République est à la fois minée par des divisions internes, non seulement au sein du parti dirigeant de l'époque, le Kuomintang, le parti nationaliste, mais aussi par des partis adverses, dont le parti communiste chinois. Et puis par des menaces extérieures, dont la menace japonaise, qui se concrétise à partir de 1931, au moment où les Japonais envahissent la Mandchourie. Et donc c'est à ce moment-là que Wang, qui n'a cessé de professer une sorte de pureté idéologique, d'attachement au début de la République de Chine, personnalisé par le docteur Sun Yat-sen, qui en est son fondateur, c'est à ce moment-là, dans les années 1930, que Wang considère que si la République de Chine entre en guerre de façon ouverte avec le Japon, c'est la fin de la nation chinoise. Et donc que ce qu'il faut, c'est négocier, passer des compromis, s'entendre avec les Japonais. Et c'est le début de cette pente qui le conduira finalement en 1940 à devenir le chef d'un gouvernement national réorganisé de la République de Chine, c'est-à-dire un gouvernement fantoche, il n'y a pas d'autre terme, hein, au service de la puissance japonaise, qui en 1937 a déclaré la guerre à la Chine, ou plutôt le Japon et la Chine se sont mutuellement déclarés la guerre, si je puis dire, et qui cherche à se tailler sa sphère de coprospérité, hein, de la grande Asie orientale en Asie.
Donc lui, son rôle, il va diriger la Chine dans la partie occupée par les Japonais.
C'est exactement.
Ce qui l'amène à collaborer parce que il estime que le Japon est trop puissant et qu'il faut donc collaborer avec le Japon pour assurer l'avenir de la nouvelle République de Chine. C'est sa position qui va le conduire à des choix un peu extrêmes. Il va quitter la Chine pour le Japon un moment.
Oui, voilà, il se perd complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend la tête de ce gouvernement national réorganisé, d'une certaine manière, on ne le reconnaît plus. D'abord, il se met à parader en uniforme militaire alors qu'il n'a pas de compétences dans ce domaine-là. Il est très dur avec... Il se comporte en dictateur avec son propre gouvernement alors qu'il est... trop conciliant, si je puis dire, avec les Japonais. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne cherche vraiment à imposer ses vues. Il échoue dans toutes ses tentatives et il va effectivement se rendre au Japon, puisqu'il est, pour les Japonais, à l'instar de Puyi, qui est l'empereur du Manchukuo au même moment, un pion très précieux pour donner l'impression que, finalement, les nations d'Asie orientale acceptent le projet de sphère de coprospérité. Et donc, il y a cette fameuse conférence de Tokyo en 1943, à laquelle Wang participe. Évidemment, voir Wang en photographie à côté du Premier ministre japonais Tojo, c'est la photo de l'infamie, hein. c'est la poignée de main de comptoir.
Hein. Il avait été gravement blessé dans un attentat dans les années 30, ses blessures vont se rouvrir, il va mourir au Japon, ça lui évitera sans doute d'être jugé. Il nous reste malheureusement qu'une minute, passons à votre compagnie. Est-il toujours considéré comme l'architraître à la fois à Taïwan, à Formose, Taïwan, et en Chine continentale. Et je vous poserai la même question, on conclura, Franck Favier, Florence de Boudu et Sébastien Bertrand, nous conclurons là-dessus. Je rappelle le livre pour lequel nous avons eu le plaisir de vous recevoir, Traite, nouvelle histoire de l'infamie, aux éditions passées composées. Alors, Zhang, Wang Jingwei, traître ou plutôt vaincu de l'histoire.
Alors, en cinq mots, aucune réhabilitation actuelle des deux côtés
n'est envisagée.
Rien du tout. Alors là, que ce soit en République de Chine ou en Chine communiste, rien.
Franck Favier.
Ah, ça n'a pas eu le temps de tout développer, mais c'est vrai qu'il y a aussi des affrontements politiques avec Chiang Kai-shek qui seraient intéressants de voir, parce qu'il y a ça aussi.
Il faut lire le livre.
C'est vrai. Bien, c'est sur ces dernières paroles que, effectivement, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous conseille de lire ce livre passionnant et qui nous ouvre l'esprit. Traître, nouvelle histoire de l'infamie aux éditions passées composées. Florence de Boulu, je commence par vous. Franck Favier et Sébastien Bertrand, merci beaucoup d'être venus.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Beau livre ce soir en direct. Merci à Aline à la technique. Merci à Marine au standard. Et merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité, pardonnez-moi. Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien. Très bon dimanche soir à vous tous.
Vous venez d'entendre le libre journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 2 juillet 2023 de 18h à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.